Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Des tutus et des petits chaussons de satin blanc. Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui au cœur de l'histoire de la danse. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous avons la chance, je l'ai dit et redit à ce micro, d'avoir en France un des plus beaux et peut-être le plus beau corps de ballet du monde, celui de l'Opéra National de Paris. Il faut en profiter. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui la directrice de la danse de l'Opéra, Brigitte Lefebvre, ainsi que Martine Kahan qui connaît si bien l'histoire de cette maison. Avec elle, nous allons suivre les traces des ballerines et des danseurs qui nous font rêver depuis tant de générations.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez comme chaque jour à la question d'un auditeur. Aujourd'hui, il s'agit d'une auditrice, oui. Joséphine, qui vous demande via la page Facebook de l'émission d'où vient le nom du financier aux amandes.
Eh bien, j'en profiterai pour vous parler d'autres noms de petits gâteaux, à commencer par l'opéra, naturellement. Pour le moment, je vous propose de revivre le drame d'une danseuse étoile qui, en pleine répétition, va prendre feu.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Elle aura été la dernière des grandes ballerines romantiques après Marie Taglioni, Fanny Elsler, Carlotta Grisi. Si fine, si délicate, si discrètement aérienne, un petit colibri de gaze blanche. Elle appartenait, dira Théophile Gautier, à cette chaste école qui fait de la danse un art presque immatériel à force de grâce pudique, de réserve décente et de virginale diaphanéité. On croirait qu'il est en train d'évoquer une geisha. À l'entrevoir, à travers les transparences de ses voiles, dont son pied ne faisait que soulever le bord, on eût dit une ombre heureuse, une apparition élyséenne jouant dans un rayon bleuâtre. Elle avait la légèreté impondérable et son vol silencieux traversait l'espace sans qu'on entendît le frisson de l'air. Regardez-la qui lévite, qui vibre de son petit pas si rapide, comme au-dessus des planches de cette grande, de cette intimidante scène de l'opéra. Ce n'est pas encore l'opéra Garnier, naturellement. On est encore en plein cœur du Second Empire. On est donc dans la salle de la rue Lepelletier. Attention, attention, elle a tendance à s'approcher un peu trop de la rampe de gaz qui éclaire le plateau râpeux d'un halo irréel, mais qu'elle est belle et noble et pure. Un spectre de grâce maîtrisée. Dangereux tout de même ces rampes de gaz pour les danseurs, surtout pour les danseuses, entourées de tous ces voiles, vous savez, qui peuvent si facilement prendre feu. Il y aura plus d'une catastrophe. Je pense évidemment 20 ans plus tard au célèbre incendie de l'Opéra de Nice en 1881. À ce moment-là, c'est un bec de gaz qui mettra le feu à un décor et il y aura quand même 200 personnes asphyxiées, brûlées ou étouffées dans cette affaire. Et c'est à la suite de l'incendie d'une autre salle, l'Opéra Comique en 1887, qui va faire 84 victimes, que l'éclairage à l'électricité va devenir obligatoire. Mais on a envie de se dire, dans ces conditions, il faudrait peut-être se montrer prudent. Pourquoi est-ce que la divine Emma passe si près ? Il faut vous dire que, depuis Marie Taglioni dans la Sylphide, les danseuses portent des jupes montées sur plusieurs jupons, qui font environ 50 à 60 centimètres de hauteur, des jupons composés de tarlatane. C'est ce qui sera nommé, à partir de 1881 seulement, les tutus. Des tutus qui sont donc très longs, hein, qui descendent jusqu'au milieu des chevilles. Tout ça est bien vaporeux. Ce serait un régal pour les flammes. En prévision des accidents, les danseuses doivent appliquer sur les costumes un produit spécial qui évite, enfin qui limite en tout cas les dangers d'incendie seulement. Ce tissu a tendance à jaunir la gaz, vous voyez, et puis ça raidit le tutu, ça le rend nettement moins vaporeux. Alors, nombreuses sont celles qui préfèrent s'en passer afin de préserver la tenue, la beauté, ce caractère justement si majestueusement vaporeux. Ai-je besoin de vous préciser qu'Emma fait partie de ces danseuses un peu trop puristes? Elle a été jusqu'à signer une décharge à l'administration de l'opéra, mais oui, elle fait partie de ces artistes qui ne reculent jamais devant aucun risque. Je ne vous l'ai pas dit encore, nous sommes le 15 novembre 1862. C'est une date fatidique, une date maudite pour toutes les danseuses qui, dans leur cœur, ont toujours une petite place pour la charmante et discrète Emma Livry. La danseuse est ce jour-là en pleine répétition. Elle doit tenir un rôle de mime dans l'opéra d'Aubert. Vous savez, la muette de Portici. On a eu l'occasion de parler de la muette pour toute autre chose à l'occasion du centenaire, enfin du 150e anniversaire de la naissance de la Belgique. Eh bien, dans ce ballet, on lui a aménagé, on lui a aménagé un ballet même un peu plus long que ce qui était prévu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce rôle, Emma le prend très à cœur, comme elle prend d'ailleurs tous les rôles. Elle virevolte, elle tourbillonne, et attention, à chaque fois, sa jupe de mousseline effleure un des becs de gaz. Il suffirait que jaillisse une flamme. Ça y est, c'est le drame. Vous ne l'avez pas vu, moi non plus, ça va trop vite, mais une chose est sûre, la flamme a jailli, et en une seconde, pas plus, elle vient de transformer notre colibri en une torche vive.
Nous écoutions sur Europe 1 Variation de Gisèle, un ballet composé par Adolphe Adam. Vous revenez, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur cette magnifique danseuse Emma Livry.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Emma Livry est une danseuse née ? Le fait est, en tout cas, qu'elle est fille de danseuse. Elle a vu le jour 20 ans avant le fameux accident que nous sommes en train de vivre. Nous allons y revenir, évidemment, à cet accident. Elle est née en 1842 sous le nom d'Emma Marie Aimaro. Elle est la fille de Célestine Aimaro, qui est première danseuse à l'opéra. C'est un grand titre à une époque où il n'y a pas encore de danseuse étoile. Cette danseuse a eu son enfant avec un notable de l'époque, vous savez, c'était très fréquent, hein. C'est le foyer de l'opéra, vous savez, l'homme en question s'appelle le baron Charles de Chassiron. Et d'ailleurs, en faisant allusion à la minceur d'Emma et à la rondeur du baron, on dira plus tard, comment donc un chat si maigre a-t-il pu naître d'un chat si rond ? Un rat, pardon, en parlant du petit rat, un rat si maigre a-t-il pu naître d'un chat si rond ? C'est un autre protecteur de la mère, le vicomte Ferdinand de Montguyon, qui en fait va faire office de beau-père pour Emma, va s'occuper d'elle, il va chaperonner activement sa carrière. Il est de ces bonnes fées, si je puis dire, vous savez, qui poussent, qui motivent, qui vont donner le feu sacré à la jeune fille. Elle reçoit une bonne éducation catholique dans une pension parisienne, et j'allais dire forcément, elle se met toute jeune à la danse. Elle a des dispositions. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est à l'école de danse de l'opéra, l'élève de Madame Dominique. Madame Dominique est une amie de sa mère. C'est un excellent professeur, extrêmement réputé, un des plus prestigieux de l'époque. Notamment, c'est elle qui a formé Giuseppe Nabozacchi. Elle est, on peut dire, de ces femmes qui savent transmettre, là aussi, le feu sacré. Et bien sûr, Emma, à son contact, va grandir dans son art. Très rapidement, on la remarque pour ses aptitudes exceptionnelles. Elle n'a que 16 ans lorsque, alors vous allez me dire, les carrières se faisaient un peu plus vite qu'aujourd'hui, enfin souvent un peu plus vite, mais tout de même, elle n'a que 16 ans lorsqu'elle est nommée, elle aussi, première danseuse. Le titre de danseuse étoile, je le précise, mais enfin on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec nos invités, le titre ne date que de 1938 seulement. Elle est donc première danseuse à l'âge de 16 ans, et du jour au lendemain, du soir au lendemain, comme ça arrive souvent, elle va devenir célèbre grâce à son exécution extraordinaire d'un pas de Bacchante intercalé pour elle dans le ballet Herculanum. On l'avait trouvé tellement bien qu'on avait fait exprès, on en avait, vous savez, ces ballets, hein, lorsque... Ces ballets étaient un peu à géométrie variable. Ça aussi, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, son interprétation ce soir-là est tellement extraordinaire que tout Paris ne parle que de cela. On peut dire qu'elle est très vite une grande dame de la scène, même si elle reste une petite fille dans la vie. Il faut voir ce qu'est sa chambre, par exemple. Hein. C'est la chambre d'une toute jeune fille de la bourgeoisie, tendue de perses roses et blanches, avec des fenêtres voilées de mousseline. Au mur, il y a un portrait de sa mère, il y a une vierge, on est à l'époque sulpicienne, hein, ou pré-sulpicienne. Il y a un crucifix, bien entendu. Aucun excès dans la vie d'Emma, du reste. On la dit bonne, vaguement naïve, très spirituelle, et elle passe son temps à travailler, travailler, travailler. S'il y a un verbe qui peut se conjuguer à tous les temps lorsqu'on parle de danse, c'est bien celui-là. Elle est constamment en répétition, à l'entraînement, si je puis dire, et puis en représentation, bien entendu. Pour le reste, elle est souvent chez elle, elle est là, elle rêve, elle médite, elle fait des projets, c'est de son âge. Elle a la vie devant elle, Emma. On peut pas dire que par ailleurs ce soit véritablement une beauté. Elle a le visage fin, on a pas mal de gravures qui la représentent, je regardais ça ce matin, une bouche que les critiques jugent un peu trop grande, les sourcils droits, le front haut, bien dégagé, des yeux assez mélancoliques. Elle a quand même un problème, enfin c'est en tout cas pour elle un problème, c'est son nez qui est un petit peu long. Ce qui séduit en elle évidemment, au-delà de la grâce et de cet air de pudeur qu'elle affiche constamment, c'est le port de tête extraordinaire. Alors je vous ai dit qu'elle était maigre tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est mince, trop mince, surtout à une époque où on apprécie un peu les rondeurs. Elle a avoué vivre d'eau et de vinaigre, ça ne s'invente pas. Elle se décrit elle-même comme pâle et intéressante, mais sûrement pas jolie, avec de trop grands yeux. Elle est assez lucide finalement. Alors je vous l'ai dit, la notoriété des Malivry a décuplé après son triomphe dans Herculanum. La presse unanime la compare à Marie Taglioni, la première grande ballerine romantique. Et il fallait, on se dit que ces deux-là se ressemblent trop, que leur carrière, on donne le sentiment de trop bien s'emboîter pour qu'elles ne finissent pas par se rencontrer. Le rendez-vous entre les deux danseuses est obtenu par le fameux vicomte de Montguyon, qui est toujours là, hein, le beau-père d'Emma Livry, qui veille au grain et qui jouit d'une influence certaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Marie Taglioni va assister à des répétitions d'Emma et elle est tout de suite impressionnée par sa virtuosité. Alors on parle toujours de concurrence, pour ne pas dire de haine sourde dans ce métier, mais là en l'occurrence c'est une vraie affinité qui va se développer entre ces deux femmes. Marie décide de devenir le professeur d'Emma. Elle la considère ouvertement comme sa dauphine. Sans doute lui rappelle-t-elle un peu sa propre jeunesse. Alors, le grand ballet qui a rendu la Taglioni tellement célèbre, c'est la Sylphide, évidemment. Eh bien, on va la reprendre pour Emma Livry. Sauf que, évidemment, tout le monde l'attend au tournant. Vous savez, c'est très difficile hein, de se confronter à un mythe comme celui-là. Le ballet est trop définitivement associé à Marie Taglioni. Et finalement, pour Emma, ça va être peut-être pas tout à fait un échec, n'exagérons pas, mais en tout cas, c'est un succès en demi-teinte, disons. Selon son mentor, hein, selon notre Montguyon, il lui faut très vite un rôle nouveau et, ça c'est assez extraordinaire, c'est Marie Taglioni qui va écrire un rôle sur mesure pour Emma Livry, avec pour objectif de donner à voir au public l'entière mesure de son talent. C'est-à-dire que l'on sait quels sont les points forts d'Emma, quels sont ses points faibles si elle en a, et donc on va lui faire un ballet vraiment pour elle, et qui colle à sa personnalité. Marie Taglioni, en parallèle, est nommée inspectrice des classes et du service de la danse à l'opéra, et donc on peut dire qu'elle prend en main l'ensemble de la formation de l'opéra. Marie Taglioni crée donc ce ballet qui va s'appeler Le Papillon. On est en 1860, alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Farfalla. Farfalla, c'est le papillon en italien, qui a été transformée en papillon par une méchante fée et qui, après de nombreuses péripéties, bien entendu, qui donnent lieu à toutes sortes de morceaux de bravoure, va retrouver son amoureux, le prince Jalma, un rôle confié à Louis Mérante, grand danseur de l'époque. C'est un ballet pantomime en deux actes et quatre tableaux. Pour la musique, on a trouvé Jacques Jacques Offenbach, qui est pas très connu, hormis la chanson de Fortunio, et pour le livret, un certain Monsieur de Saint-Georges, qui est l'auteur de Gisèle, enfin co-auteur avec Théophile Gautier, bien entendu. Marie Taglioni répète, travaille chaque jour aux côtés d'Emma Livry, qu'elle porte, si l'on peut dire, hein, et à laquelle elle transmet tout ce qu'elle peut. Marie Taglioni, par ailleurs, se soucie de la publicité qu'on peut donner, hein, de la réputation d'Emma. Elle l'invite aux soirées qu'elle organise, en compagnie de sa mère, bien entendu, et d'une autre danseuse. Emma est en train de devenir, évidemment, la danseuse vedette de cet opéra de l'époque, qui va renouveler, du reste, son engagement pour 3 ans. Arrive le soir de la première, on est le 26 novembre 1860, elle a 18 ans Emma, vous imaginez, la salle est comble bien entendu, tout le monde n'a Dieu que pour elle, et l'on peut dire que le public adhère autant à la vigueur musculaire de la danseuse, à ses pointes d'acier comme dira la presse, qu'à l'extraordinaire légèreté dont elle fait preuve. Des bravos, des hurrahs sont régulièrement entendus au cours du ballet, disons-le, c'est un triomphe. Et l'empereur en personne, Napoléon III, va venir 3 fois applaudir le papillon et voir danser Emma. Pour elle, c'est une consécration extraordinaire. Il y aura 30 représentations, ce qui pour l'époque est beaucoup, jusqu'au 25 mai 1861, avec une recette de plus de 200 000 francs or. Bref, c'est le très très grand succès. Ça y est, cette fois, c'est une extraordinaire avenue qui, à l'image de celle de Monsieur Haussmann, est en train de s'ouvrir devant Emma Livry. Pour remercier Marie Taglioni, Emma lui offre un bracelet orné d'un papillon de turquoise et de diamant. Décidément, ce papillon lui a porté chance. Je vous propose d'entendre quelques mesures de ce ballet de Marie Taglioni, le papillon qui a été immortalisé, mais immortalisé vraiment de façon éphémère, à la manière des papillons, par Emma Livry.
Sur Europe 1, un extrait du ballet de Marie Taglioni sur une musique de Jacques Offenbach. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur la danseuse Emma Livry.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour parler de la vie d'Emma Livry, cette danseuse.
Alors, après le triomphe du papillon, la Taglioni est priée de créer pour Emma un autre ballet. Alors, elle va y travailler, bien entendu. Et en attendant, notre petite prodige, si je puis dire, accepte de jouer un rôle de mime, donc, dans cet opéra d'Aubert, dans la muette de Portici. Et nous y revoici, à ce maudit 15 novembre 1862. C'est le drame, rappelez-vous, cette flamme, la danseuse qui se transforme en torche vive. Emma hurle de douleur, elle traverse la scène à 3 reprises en faisant des bonds qui n'ont plus rien d'harmonieux. Évidemment, 2 danseurs essaient d'éteindre le feu comme ils peuvent. Les autres, pris de panique, s'enfuient vers les coulisses. Le tutu a littéralement flambé, hein, il a disparu sous les flammes. Et là, Emma s'aperçoit qu'elle va se retrouver dénudée. Et rappelez-vous, ce tempérament qui est le sien par pudeur, alors qu'elle souffre, vous imaginez, elle ramène contre elle les morceaux d'étoffe enflammés, donc ça ne fait qu'aggraver les choses, bien entendu. Ce geste-là va faire que les brûlures qui étaient déjà importantes vont devenir des brûlures épouvantables, et c'est finalement un pompier qui va éteindre le feu en la couvrant d'une couverture mouillée, mais on a perdu un temps précieux. Je laisse parler Théophile Gautier. Un soir, la danseuse, emportée par le vol circulaire d'une valse, rasa de plus près cette étincelante ligne de feu qui sépare au théâtre le monde idéal du monde réel. Ces légères draperies de sylphides palpitaient comme des ailes de colombes prêtes à prendre l'essor. Un bec à gaz tira sa langue bleue et blanche et atteignit l'étoffe aérienne. En un moment, la flamme environna la jeune fille qui dansa quelques secondes comme un feu follet au milieu d'une lueur rouge et se jeta vers la coulisse éperdue, folle de terreur, dévorée, vive, par ses vêtements incendiés. Est-elle morte, Emma Livry? Mais comme elle a dû souffrir, je vous demande si elle est morte. Non, non, mais elle est gravement blessée. Voici ce que diront les frères Goncourt le lendemain, le 16 novembre 1862, dans leur journal. Sous la couverture mouillée que le pompier lui avait jetée, la pauvre danseuse si horriblement brûlée hier, Emma Livry, s'était mise à genoux et faisait sa prière. Les brûlures d'Emma Livry ne sont pas vraiment profondes, mais le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont très très étendues. Seul son visage et le haut de sa poitrine ont été épargnés, et l'on peut dire que Marie Taglioni a aggravé les choses, parce qu'au moment de l'accident, une fois le feu éteint, elle n'a eu de cesse d'enduire les brûlures de graisse à démaquiller. Ça, c'était la pire chose à faire, mais elle ne pouvait pas le savoir, elle croyait bien faire évidemment. Pendant huit mois, Emma va vivre un véritable cauchemar. Voici ce qu'écrit le critique de danse Léandre Vaya. Elle resta 131 jours couchée sur le ventre, les bras étendus sans mouvement. Son corps n'était qu'une plaie. On exprimait du jus de citron sur les chairs vives, on les égalisait en les coupant pour éviter les coutures, on lui défendait les plaintes dans la crainte de briser les faibles tissus qui se reformaient peu à peu. Seulement la force d'âme de cette si jeune Emma Livry est telle, sa volonté de vivre est si grande qu'en dépit de ce supplice permanent, elle garde l'espoir. Elle se dit qu'elle va guérir. Elle espère qu'un jour, elle pourra danser à nouveau. Et elle ne change pas. Vous savez, un journaliste qui est là à son chevet, qui lui parle de tutu anti-feu, elle déclare « Oui, ils sont moins dangereux, mais si je reviens un jour à la scène, je refuserai encore d'en porter parce qu'ils sont trop laids. » Le 15 juillet 1863, sur les conseils de son médecin, elle est transportée à Neuilly-sur-Seine pour essayer d'éviter l'air vicié de Paris qui, semble-t-il, n'améliore pas ses plaies. Elle se fait transporter au château de Villiers qui a été loué par sa mère. Seulement ça c'est le déplacement, c'est le voyage de trop. Ses blessures vont se rouvrir et je vous fais grâce de ces dernières journées. Elle va mourir d'une septicémie le 26 juillet 1863. Elle est âgée de 21 ans. Et Emma Livry va être, on peut dire, pleurée par tout Paris. Et quand je dis tout Paris, je ne parle pas seulement du Paris mondain. Elle était devenue une personne déjà très connue de tous. Elle repose au cimetière Montmartre. À Eugène Scribe, en 1861, elle avait dit, donc on est quelques mois avant sa mort, elle avait dit « Mourir brûlé vive comme un papillon, ne trouvez-vous pas, monsieur Scribe, que c'est une belle mort pour une danseuse ?» C'est assez étonnant quand même, c'est troublant, cette phrase si prémonitoire. Marie Taglioni pleure cette jeune danseuse comme si elle était sa fille. Je vous l'ai dit, l'opinion est bouleversée. La presse consacre des pages entières à la jeune fille. Et le 2 août, Théophile Gautier écrit dans le Moniteur « Comme s'il voulait escorter le convoi d'une sœur, deux papillons blancs n'ont cessé de voltiger au-dessus du blanc cercueil pendant le trajet de l'église au cimetière. Ce détail, où la Grèce eut vu un poétique symbole, a été remarqué par des milliers de personnes, car une foule immense accompagnait le char funèbre. Sur la simple tombe de la jeune danseuse, quelle épitaphe écrire, sinon celle trouvée par un poète de l'anthologie pour une Emma Livry de l'Antiquité? Ô terre, sois-moi légère, j'ai si peu pesé sur toi. Nous sommes donc en compagnie de Brigitte Lefèvre et de Martine Kahan pour parler non seulement d'Emma Livry, mais de toutes ces danseuses et de toute cette extraordinaire épopée du ballet de l'opéra. Bonjour mesdames, je vous dis à tout de suite.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire du ballet et de l'opéra. Avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Brigitte Lefebvre, directrice de la danse de l'Opéra de Paris depuis 1995, et Martine Kahan, conservatrice, historienne spécialiste du 19e siècle.
Alors, je disais, Brigitte Lefebvre, que toutes les danseuses ont toujours une petite place dans leur cœur pour cette Emma Livry. Elle reste une figure connue aujourd'hui.
Oui, enfin, on connaît surtout son histoire, son drame. Il y en a un qui, il y a eu plusieurs, vous avez raison, Franck, de dire qu'il y en a eu d'autres. Et au XXe siècle, Jeannine Charrin.
Et oui.
Lors d'un ballet qui était filmé à la télévision, a pris feu, comme ça.
Et d'ailleurs, elle a crié au moment où son costume a pris feu. Elle a crié, comme Emma Livry, comme Emma Livry.
On pourrait presque parler d'une fatalité. En tout cas, elle était extrêmement courageuse et elle a eu beaucoup de solidarité autour d'elle, ce qui m'a permis de continuer, Dieu merci, à vivre. Comme elle continue à le faire.
Il faut expliquer, Martine Kahan, je l'ai dit en deux mots, j'ai parlé de ces rampes de gaz, mais au XIXe siècle, l'éclairage des plateaux, comme nous les appelons nous aujourd'hui, l'éclairage des cages de scène est une chose difficile, évidemment. Hein.
Très difficile.
Surtout lorsqu'on a de grandes scènes, bien sûr.
La malédiction des théâtres, c'est le feu.
Mais oui.
Et ce, jusqu'au XXIe siècle, hein, il ne faut pas non plus se le cacher. Mais c'est vrai que la rampe qui est de la lumière vive, la lumière vivante, est tout à fait dangereuse et que vous avez énormément d'exemples d'accidents de ce genre ou de décors qui se décrochent ou de filins qui tiennent les décors qui prennent feu, comme sur un bateau en fait. Hein. Et l'histoire de la scène est jalonnée de ce genre d'accidents, voire jusqu'aux incendies de théâtre, l'incendie de la Scala, il n'y a pas eu si longtemps,
oui, bien sûr.
Venise.
Il a fait Nietzsche.
Cet opéra de la rue Le Pelletier dont on vient de parler, où a eu lieu ce drame, qui lui aussi a été détruit par un incendie.
Entre nous soit dit, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre pour nos amis et auditeurs amoureux d'anecdotes historiques. Cette salle de la rue Le Pelletier, elle en aura connu des horreurs. Elle aura connu l'assassinat du duc de Berry en 1820, avec cette scène épouvantable où on voyait le duc de Berry perdre tout son sang pendant toute une nuit avec les danseuses du corps de ballet justement qui venaient voir à la porte de la loge où il était en train d'agoniser. On a vu également en 1859 le terrible attentat contre l'empereur Napoléon III qui a éventré les chevaux, qui avait fait plusieurs morts aussi. Enfin bon, c'est une salle qui a été marquée par le drame. On a presque envie de dire que l'opéra était un lieu de réunion sociale et politique beaucoup plus important qu'aujourd'hui d'une certaine façon. C'était un lieu où se passaient de grands événements, hein, des extérieurs au spectacle, là, totalement extérieurs.
Alors l'opéra l'est probablement encore aujourd'hui, mais d'une façon un petit peu différente. Le fameux rang 15 à l'Opéra Bastille, qui est le rang où vous pouvez étendre vos jambes, est toujours un lieu très politique, dirions-nous. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Paris est un lieu où se rassemble un certain nombre d'événements anarchistes, de complots, de violences.
Et l'opéra, comme toute la bonne société, tous les soirs à l'opéra, évidemment...
Relire Balzac.
Mais voilà,
dans tous les romans de Balzac qui se passent à Paris, il y a une scène qui se passe à l'opéra.
Mais oui. Alors, et chez bien d'autres auteurs, évidemment.
Sûr.
On parle beaucoup de Marcel Proust en ce moment. Il y a quand même quelques-unes des plus belles pages du côté de Guermantes qui se passent à l'opéra, bien entendu. Je dis que ce titre d'étoile était un titre relativement récent et moderne, Brigitte Lefebvre, en fait.
Oui. D'ailleurs, on en parlait dernièrement avec Martine Kahan. On peut s'interroger pourquoi, finalement. Pourquoi ce titre est relativement récent? Je crois que Serge Peretti a été notre premier danseur étoile. Donc on parle d'un homme, parce qu'on parle toujours des femmes et du merci.
Oui,
autant il y a des endroits où on parle pas beaucoup des femmes, dans la danse on parle beaucoup des femmes, alors que les hommes sont très présents et jouent un rôle important. Dieu merci.
Et ils ont été présents dès l'origine. Et ça,
absolument,
ça nous amène à l'origine même de ce ballet de l'opéra.
Hein. Oui.
On remonte là
ou
à la
danse savante. Ou disons de la danse savante.
La danse savante, c'est
voilà,
ça.
Exactement.
Oui. Il faut expliquer d'ailleurs ce qu'on appelle la danse savante. Pourquoi?
C'est une danse codifiée qui s'apprend, qui se transmet, une danse de l'excellence, une danse de la difficulté, une danse de la transmission et une danse qui ne cesse d'évoluer. Je crois que la danse classique à l'Opéra de Paris maintenant n'a rien à voir avec celle qu'elle était, bien évidemment, du temps de Louis XIV, si on remonte jusque-là, et qu'on ne cesse d'évoluer. Je vois même des ballets qui sont dansés 10 ans, 15 ans après, et bien la qualité qui ne cesse d'être réinterrogée montre qu'on va encore plus loin d'une certaine manière.
Oui. On peut dire que le ballet de cour n'avait pas encore de frontières très délimitées entre scène et salle, d'une certaine façon, puisque dans ce qu'on appelle le grand bal paré à la cour, les princes et les dames sont censés danser comme des danseurs, entre guillemets, professionnels.
Ça a été un des moyens de gouvernement de Louis XIV, c'est ça, d'ailleurs, hein, oui. qui a été de réunir autour de lui les grands seigneurs et les dames de la cour pour les faire danser, ce qui évitait qu'ils aillent comploter dans leurs terres en province. Mais c'est vrai que c'est un mélange, parce qu'il y avait aussi des moments très joyeux, il y avait des moments comiques, qui nous sembleraient, même parfois aujourd'hui, érotiques, pourquoi pas, tout était mélangé. Et au fur et à mesure, cette danse va devenir, comme le dit Brigitte,
elle va se codifier.
Voilà, avoir beaucoup, beaucoup de règles.
Il y a des noms à citer, Beauchamp, Nevers.
Les premiers grands, Beauchamp, le premier grand, et puis Nevers, dont on parlait avec Brigitte il y a quelques instants, vous pouvez relire Nevers aujourd'hui.
Il faut expliquer qui est Nevers.
Nevers est un grand théoricien.
1729.
Il naît en 1729, il meurt en 1810.
Oui, c'est le grand danseur de la fin de l'Ancien Régime.
Chorégraphe, quelqu'un de très important, et en plus dont nous avons des écrits, parce que le problème de cette histoire de la danse, c'est que très souvent on manque de sources, et on manque de sources écrites. Ce qui n'est pas le cas avec Nevers, puisque lui-même a écrit ce qui est magnifique, c'est Lettres sur la danse, où vous trouvez toute la théorie sur la danse de l'époque, mais en même temps, tout le contenu qui doit être celui, disons-nous, de l'esprit et de l'âme, qui vient compléter les règles qui sont celles du corps.
On peut même dire d'ailleurs Nevers le moderne. Il sera éternellement moderne, parce qu'il nous re-questionne sans arrêt sur ce qu'est la façon de faire jouer cette grammaire, ce vocabulaire, par rapport à des ballets qui n'ont cessé d'évoluer eux aussi. En
Alors,
fait.
Notamment grâce à Francine Lancelot, on a redécouvert ce ballet baroque dans le mouvement de la fin des années 80 et 90, où justement le baroque est redevenu très à la mode. Et oui, nécessairement. Mais disons-le, en tout cas dans l'imaginaire collectif, la grande époque du ballet, c'est le ballet romantique, c'est le 19e siècle tout de même.
Ah, ça va plaire beaucoup à Martinica, que vous disiez ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, bien sûr. Mais moi, je reviens à Louis XIV. D'abord, je trouve ça quand même incroyable que ce roi, qui dit que l'État, c'est lui, il fonde un peu cette école, ce tricentenaire de l'école française de danse. Il fait la batterie, ce qu'on appelle dans notre jargon la batterie. Il y a même un pas de danse qui s'appelle royal, parce que le roi battait, interprétait ce pas de danse. Et d'une certaine manière, la première étoile, c'est Louis XIV. C'est pas Serge Peretti. C'est lui-même. Le roi soleil.
C'est plus qu'une étoile, c'est une constellation à lui tout seul.
Voilà. Donc oui, on peut parler du 19e. À toi Martine.
Alors justement, pour parler du 19e, il faut parler de cette féminisation d'abord. Parce que les grands danseurs de l'Ancien Régime sont des hommes, il y a quelques femmes célèbres, mais les grands danseurs, si je puis dire, du 19e siècle sont des femmes. C'est le grand siècle de la ballerine en fait. Hein.
Elle chasse même les hommes de la scène, puisqu'on ne veut pas voir d'hommes sur la scène. Et si vous parliez de Théophile Gautier, qui est le premier grand critique de danse, qui a peut-être même fondé cette discipline, qui est la critique de danse, qui est un grand auteur de livret aussi, voire Gisèle, il le dit, il l'écrit, on ne veut pas voir d'hommes sur la scène, ils sont affreux, ils sont rouges, ils sont gros, ils sont laids, vive les femmes. Mais ces femmes, on les aime beaucoup à condition que cette féminité soit mise en veilleuse, si on peut dire. Elles doivent être pures, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour Emma Livry, qui est un symbole chaste, blanche. Ce sont de beaux fantômes de légende. Ce ne sont surtout ni des épouses, ni des mères, ni des
Elles
femmes.
Sont complètement désincarnées.
Des créatures idéales.
D'où la sylphide, bien entendu.
D'où la sylphide, évidemment, et d'où l'amour des poètes, voire Musset, pour ce genre de créatures qui ne sont pas gênantes du tout. En plus, dans les livrets de ballet de l'époque, elles meurent très rapidement, à la fin de la première partie, on s'en débarrasse, ce sont de jolies mortes, c'est d'ailleurs très très poétique et très symbolique de l'époque, et ces jolies mortes reviennent sous des formes qui sont celles de déesses, de danseuses, de péris, d'ombres, de voulies, comme tu dis, ce ne sont plus des femmes.
Alors, celle dont j'ai beaucoup parlé à travers Emma Livry, c'est Marie Taglioni, bien entendu, elle a marqué, elle définit définitivement cette troupe du ballet de l'Opéra de Paris.
Oui, tout à fait. Déjà, en étant effectivement la première directrice de l'école de danse, assez fondateur, cette école de danse, dirigée d'ailleurs aujourd'hui par Elisabeth Platel, mais formidable. Mais je veux dire, c'est ça qui fait que le ballet de l'Opéra de Paris est aussi ce qu'il est. Marie Taglioni, elle est très touchante parce que, en fait, d'abord, elle fait partie d'une famille de danseurs. On voit bien d'ailleurs à toute cette période-là, et même avant, c'est des familles, c'est des gens qui se perpétuent un petit peu là, et qui continuent à parler d'évolution. Et puis alors, son père, là, faisait travailler extrêmement durement, mais très très durement. On se plaint maintenant du travail, la difficulté. Mais là, c'est incroyable. Quand on lit les écrits, c'est fou ce qu'il lui faisait faire. Et puis alors, dans cette sylphide qui a permis énormément de choses, tant sur le plan du costume que sur le plan des chaussons, que sur le plan même des mouvements, elle avait des bras très très longs. Était-ce beau, était-ce moins beau? Moi, je trouve ça très beau, sûrement. Et alors, son père avait décidé de, pour qu'elle soit encore plus beau, finalement, de croiser ses bras sur la poitrine, comme ça, très chastement, évidemment. Et ça donnait une espèce de manière d'être très pudique et très, très esthétique.
Et après, ça crée l'archétype de la ballerine telle qu'on l'imagine.
Vous avez absolument raison. Évidemment. On voit toujours, et même entre nous, quand on veut s'amuser de faire ballerine romantique, on prend un air comme ça avec les bras croisés.
Et voilà, la Taglioni est toujours présente à l'Opéra de Paris. Dans un instant, avec Brigitte Lefebvre et Martine Kahan, nous allons venir à des périodes un peu plus récentes et montrer comment a évolué ce ballet.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Petit chat, petit rat, avec mon frère le zoo, nous allions à l'école de danse. À la barre de chêne se courbaient les roseaux de nos corps amoureux de cadence. La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Nous allions à l'école de danse. Face à la grande glace, petit canard pâteau, nous vivions pour le bonheur insigne de voir les blancs tutus reflétés par les eaux du lac noir où meurt la mort du cygne. La danse est une étoile. Qu'elle est loin, qu'elle est haut.
Claude Nougaro sur Europe 1 avec un extrait de son titre La Danse, puisque nous parlons dans Au cœur de l'histoire cet après-midi du ballet de l'Opéra. Avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Brigitte Lefebvre, directrice de la danse de l'Opéra de Paris depuis 1995, et Martine Kahan, conservateur, historienne spécialiste du 19e siècle.
Je me rappelle, Brigitte Lefebvre, notre promenade dans le foyer de la danse de l'Opéra de Paris, il y a quelques mois, c'était tout à fait extraordinaire. Et on évoquait, bien entendu, ces figures, ces deux gars, bien entendu. Hein, ce sont les petites danseuses de l'Opéra. Ça, c'est resté là aussi dans l'imaginaire, bien entendu.
C'est Martine rare Kahn. Qu'un artiste de cette envergure
de gars,
s'attache.
Hein,
oui, c'est rare vraiment qu'on trouve un corpus d'œuvres aussi important sur le travail. Et c'est ça aussi qui, dans l'œuvre de Degas, est fondateur, c'est qu'il peint, qu'il dessine des femmes au travail. Ces femmes sont des danseuses, plus tard ce seront des blanchisseuses, mais ce qui l'intéresse, c'est le travail. C'est pas là. Il peint quelques danseuses en majesté, avec le bouquet sur la scène.
Oui, mais enfin, ça n'est pas l'essentiel.
Non, et c'est pas ce qui l'intéresse, on le sent bien.
Oui, bien sûr. Alors, il y a quelques très grands chorégraphes. Il y en a un nom, évidemment, qui revient toujours sur tous les programmes dès qu'on est dans la danse classique, c'est Marius Petipa. Alors,
pour nous, c'est extrêmement important. Je veux dire, tous les grands ballets, maintenant, Lac des Cygnes, Belle au Bois dormant, qu'on vient d'ailleurs de présenter.
Oui, bien sûr.
À l'Opéra Bastille, je veux dire, sont inspirés de Marius Petipa, et puis ceux qui continuent à le faire vivre. Il y a ce que j'appelle les chorégraphes maîtres de ballet. Par exemple, un qui est le plus flamboyant, en tous les cas, jusqu'à nous, c'est Rudolf Nureyev. C'est un homme d'une culture absolument énorme, qui pendant 6 ans a dirigé le ballet de l'Opéra de Paris, et qui a eu cette idée formidable de reprendre tous ces grands titres de Marius Petipa pour pouvoir les faire revivre à sa façon. Donc il garde, d'une certaine façon, là, aussi, il garde les fondamentaux, mais il accompagne ça de son immense culture chorégraphique avec des scénographies absolument somptueuses. Et là, à la fois, on voyage et on est bien quand même aujourd'hui dans ce qu'est la danse classique.
La danse classique a deux pays d'élection. La France, évidemment, qui est son berceau. Et puis la Russie,
oui,
bien entendu.
Oui, je crois qu'on est vraiment les deux grandes compagnies. Celle du Bolchoï et celle de l'Opéra de Paris. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui sont formidables et qui sont peut-être même mieux dans certaines choses plus spécifiques. Mais c'est vraiment d'avoir les deux capitales.
Les deux
grands conservateurs sont là. Et puis, il y a cet échange constant. Mais vous savez, ce que je trouve formidable, on a fêté effectivement le tricentenaire de l'École française de danse. Eh bien, en fait, ce que je trouve bien, c'est que, en même temps, c'est le voyage. C'est placé sous le mode du voyage. Tous ces grands danseurs, grandes danseuses, ils voyagent. Et puis après, ils reviennent à l'Opéra. Pour la plupart, là on les traite d'une certaine façon, et puis ils sont enseignés et on évolue comme ça tout le temps. Mais le côté français franchouillard, absolument pas. C'est des gens du voyage.
Martine Kahan, quels sont les apports de la Russie à cette danse, au grand ballet?
ce côté grande cérémonie qu'on imagine tout à fait bien dans l'Empire des Tsars, d'ailleurs.
Ce côté très spectaculaire.
Oui, hein, cette luxuriance, en fait. Et puis l'abondance aussi de passages pour le corps de ballet, qui est mieux traité que ne l'était le corps de ballet à l'époque en France, qui se bornait à entourer les étoiles en faisant de vagues mouvements de bras, peut-être, mais c'est tout. Tandis que la Russie leur donne vraiment à manger, en fait, comme Brigitte cite souvent cette parole, et c'est vrai, elle donne à manger à ses danseurs.
Alors il va y avoir au début du XXe siècle une nouvelle école russe, là ce sont les ballets russes, on change complètement de registre, évidemment.
C'est l'irruption de la modernité dans la danse.
Ça.
Et ça, c'est formidable parce que c'est le moment où tous les arts se rejoignent, où Diaghilev fait la synthèse de ce qui se passe dans le domaine de la peinture, de la création musicale, de la danse, de la photographie aussi, du cinéma. Et lui donne tout d'un coup, ouvre la danse sur la modernité et sur le XXe siècle.
Alors il y a, après Diaghilev, un grand personnage qu'on a parfois tendance à oublier, mais qui est fondamental. Et d'ailleurs, nous lui consacrerons peut-être une émission d'ici quelques temps. Tiens, ça fait partie des promesses dont j'espère bien qu'elles ne seront pas faites en l'air, Céline. Je me tourne vers Céline lorsque j'annonce comme ça des futures émissions. Mais c'est Serge Liffard, bien entendu.
Serge Liffard arrive à l'Opéra de Paris après la mort de Diaghilev en 1929, donc c'est le début des années 30. Il remplace en fait un autre grand danseur et chorégraphe qu'on va retrouver, qui est Balanchine, qui aurait dû prendre ce poste, mais qui pour cause de maladie ne peut le prendre. Et c'est Serge Liffard qui va appliquer à Paris les réformes qui ont été mises en place par Diaghilev.
Il est encore très présent, Serge Liffard ?
Oui, mais en fait, moi, je vais revenir un petit peu, pardon, au ballet russe. Il y a d'abord cette personnalité incroyable qu'est Diaghilev, ce que disait Martine Kahn, cette culture énorme. Et alors, en même temps, je ne sais plus qui lui a l'interrogé, mais il dit, vous faites quoi exactement? Il dit, je ne sers à rien, mais je suis indispensable. Eh bien, moi, je pense toujours à ça, je me prends pas pour Diaghilev, mais ces personnes qui sont dans une ferveur absolue de ce qu'elles doivent faire, mais qu'on peut pas identifier. On n'est pas professeur de danse, on n'est pas maître de ballet. Et je pense que Diaghilev est un grand inspirateur pour
l'âme d'une troupe.
Pour tous les grands directeurs, tous ceux qui voudraient être de grands directeurs de l'Opéra de Paris. Quelque part, Liffard est une composante de ce qu'il a fait. Même Balanchine. Mais en même temps, ça leur a permis, impulsé par quelqu'un comme Diaghilev, Georges Balanchine de créer le New York City Ballet et Serge Liffard d'avoir vraiment impulsé. Moi, personnellement, je trouve que Serge Liffard a joué un rôle essentiel et important, mais à un moment donné, il fallait ouvrir. Parce que d'un seul coup, ça devenait vraiment son outil, son instrument. Il y avait son fan club autour, évidemment, quand on parle, par exemple, de Claude Bessy.
Oui,
elle adore forcément Liffard, c'est sa jeunesse.
Directrice de l'école de danse aussi.
Qui a dirigé l'école de danse pendant de nombreuses années. Mais je pense qu'à un moment donné, il fallait quand même arriver à ouvrir le répertoire de l'Opéra de Paris.
Vous parlez aussi volontiers d'une école danoise, vous, Brigitte Lefebvre.
Mais j'en parle volontiers parce que, d'abord, c'est toujours intéressant quand on a la sensation qu'on est une grande école, je parle dans le temps, dans l'histoire, d'être attentif aux autres. Et l'école danoise, là j'en parle avec Pierre Lacote, qui est aussi un grand amoureux de toutes ces périodes, il dit qu'en fait, Bournonville a quitté la France après la sylphide, en fait. Il n'avait pas ce qu'il voulait. Et il a fondé l'école danoise, avec qui on est toujours quand même en bonne relation. Et par exemple, Rudolf Nureyev, il allait souvent travailler là-bas avec Erik Bruhn, un autre grand danseur danois, parce qu'il savait qu'il y avait une espèce de pureté aussi qui appartenait presque aux origines de l'école française de danse.
Je me rappelle un grand échiquier consacré à Rudolf Nureyev où on le voyait danser un pas de deux avec Yvette Chauviré. Il y avait comme ça des liens de génération à génération. Ce sont des mythes qui se retrouvent de temps en temps et qui se croisent.
C'est une chose magnifique et qui fait rêver de penser que depuis plus de trois siècles, tous les jours, dans un studio, dans une salle de ce qui est l'Opéra de Paris, à ce moment-là, le bâtiment qui est l'Opéra de Paris, un danseur enseigne à d'autres danseurs les règles, les lois du métier. Et ça, depuis trois siècles et demi, on transmet de corps à corps et de cœur à cœur la danse. Et ça, c'est magnifique.
Mais en même temps, je voudrais pas donner, Franck, je voudrais pas donner à vos auditeurs l'impression que le ballet de l'Opéra de Paris, c'est un art du passé.
Non, au contraire.
C'est ça que je trouve formidable, c'est que de s'appuyer sur cette grammaire, ce vocabulaire qui ne cesse d'évoluer, et en même temps de parler d'aujourd'hui, de parler de la force du mouvement, de l'énergie et autres d'aujourd'hui, tout en le conjuguant. Moi, j'ai souvent c'est passé, présent, avenir, quoi, dans le répertoire de l'opéra.
Est-ce que ça n'est pas, alors j'enfourche un de mes chevaux de bataille, pardon, mais est-ce que ça n'est pas une des conditions, justement? Est-ce que pour être à la pointe du présent et pour inventer l'avenir, il ne faut pas justement avoir ces grandes racines et avoir, c'est vrai dans tous les domaines finalement, pas seulement dans celui de la danse. Et nous avons la chance en France d'avoir cette incroyable histoire, hein, évidemment, le ballet français a cette histoire unique au monde, enfin quasiment unique avec le ballet russe, mais c'est précisément ce qui nous permet peut-être d'aller plus loin, d'inventer, d'être toujours à ce niveau extraordinaire. Vous m'aviez dit ça lorsque nous avions fait cette émission en direct du Palais Garnier, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas du tout inquiète pour l'avenir de la danse.
Ah, pas du tout. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes un maillon de la chaîne, quoi, en fait. Il faut avoir le goût, l'appétit de ce qui est de faire le mieux, mais comment ne pas parler justement de Liffard, de Rudolf, de toutes ces grandes personnalités. Mais en même temps, il ne faut pas s'y arrêter. Il faut soi-même avoir le courage d'essayer de continuer à faire avancer les choses.
Alors, Laurent Hilaire, Manuel Legris, oui. Vous parliez tout à l'heure d'Elisabeth Platel qui maintenant dirige l'école de danse. Oui. Ça, ce sont les grandes étoiles célèbres. Il y a de nouveaux danseurs aussi.
Oui, parmi les étoiles célèbres, il y a Marie-Agnès Gillot, il y a Aurélie Dupont. Puis là, il est tout jeune, là, Alice Renavant, que je viens justement avec Nicolas Joël de nommer danseuse étoile. Et la relève est là. Une fois qu'on a nommé un danseur, une danseuse étoile, on commence à me dire oui, mais un tel. Et voilà. Mais non, il faut quand même aussi raison garder.
Alors, quelle est la proportion à l'Opéra de Paris des ballets historiques, en quelque sorte, issus du grand répertoire et des créations, des nouveautés, des inventions?
Alors, je vais vous décevoir sans doute, là aussi, mais je ne le compte pas, je veux dire. En fait, on se rend compte que c'est nécessaire, année après année, de continuer à faire vivre un répertoire. Le répertoire classique, néoclassique, même contemporain, il existe. Ce qui est important, c'est ce que j'ai tenté de faire, de constituer un nouveau répertoire. Ne serait-ce que pour donner le goût du public de voir ce qui se fait ici, maintenant, de son temps. Et comme vous disiez, si justement, moi j'y adhère complètement, en sachant d'où ça vient et où ça peut continuer à aller.
Alors il y a ces deux salles, bien entendu, la Bastille et puis la salle de l'Opéra Garnier, qui est un... Alors on parlait de conservatoire tout à l'heure, là on est dans l'histoire, évidemment. Alors j'ai commis une erreur, moi, tout à l'heure, et c'est Jean-Pierre qui me le signale via notre site internet, et il fait tout à fait bien. J'ai parlé de l'assassinat du duc de Berry en 1820, il n'a pas eu lieu, me dit-il, dans la salle de l'Opéra de la rue Le Pelletier, mais à l'ancienne Opéra qui était encore rue de Richelieu, à l'emplacement du square qui se trouve en face de l'entrée de la Bibliothèque nationale. Ah, oui,
et c'est justement pour ça que l'opéra a
déménagé. Voilà. Parce qu'il était devenu maudit depuis l'assassinat du duc de Berry. Voilà. Alors voilà, mea culpa, nous avons rectifié. C'est Laurence qui nous demande par ailleurs via Twitter si vous ne trouvez pas que la morphologie des danseuses aujourd'hui est un peu... elle les trouve trop minces, elle, en ce qui la concerne.
Alors d'abord, elles sont toutes très très différentes. Et ça, c'est l'art des maîtres de ballet d'arriver à faire croire que chaque dans le corps de ballet, tout le monde est pareil. Non, il y a de tout, il y a de tout. Moi, j'essaye de pas trop insister pour qu'elle soit trop grosse, ça peut faire sourire. Enfin, ou trop maigre, quoi. Il y a l'art de l'équilibre là aussi. Et puis, c'est un art difficile. Il faut avoir de la force. Non, je trouve pas qu'elle soit trop maigre. Et quand certaines, elles boivent pas de vinaigre, enfin, j'espère pas.
Parce que... Plus maintenant, en tout cas.
J'espère pas. Mais je pense qu'il faut être très attentif à la forme physique des danseurs et ne pas les entraîner à être trop minces.
Le public est encore très présent. C'est difficile d'avoir des places pour les grandes représentations de l'Opéra de Paris.
Il n'est pas encore présent. Il est de plus en plus présent. Et on est bien heureux.
Et tant mieux. Non, mais c'est bien. Il faut être conscient de cette chance que nous avons d'avoir cette troupe excellente. Combien de danseurs et de danseuses?
154.
Et oui. Donc c'est une des plus
importantes. Non, justement, j'en parlais avec nos amis du Bolchoï.
Oui.
C'est 220.
Ah oui, oula, oui.
220 au Bolchoï. 154, ça va très bien. Même si on pourrait être plus nombreux. Parce que j'aimerais, pour ma part, qu'on aille plus souvent en province. Et on a envie de faire un tas de choses. Et c'est vrai qu'on est très, très présent dans les deux théâtres, que ce soit l'Opéra Bastille ou l'Opéra Garnier.
Alors, j'aimerais citer un ouvrage qui a été publié sous la direction de Mathias Auclair, qui nous avait reçu dans la bibliothèque de l'Opéra, et Christophe Gristi. C'est chez Albin Michel. Ça s'appelle Le Ballet de l'opéra, 3 siècles de suprématie depuis Louis XIV. Et c'est un magnifique album très illustré où l'on voit justement cette longue et belle épopée du ballet français. Et puis, j'avais dit qu'on en parlerait finalement. Bon, c'est passé à l'as, ça, mais je cite au moins l'ouvrage. Ça s'appelle La ballerine et El Comandante, l'histoire secrète du ballet de Cuba. Et c'est autour de ce personnage d'Alicia Alonso, dont vous me disiez avant que ne commence l'émission, que c'était une haute figure, Brigitte Lefebvre.
Ah, c'est une haute figure, je veux dire, elle était très très proche de Fidel Castro, du pouvoir. Et moi, j'ai rencontré parfois, et on est impressionné. Hein. Voilà.
La ballerine et El Comandante, c'est édité chez François Bourin. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous faire rêver dans l'ambiance poudrée et vaporeuse de ce ballet de l'opéra.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Joséphine qui vous demande d'où vient le nom du financier aux amendes.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Joséphine. Elle nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission. Elle aimerait savoir pourquoi le financier aux amendes porte ce nom.
Alors, on va répondre à Joséphine et je fais tout de suite un clin d'œil à Laure qui se trouve en régie et qui est une artiste de la pâtisserie. Ça va l'intéresser, ce sujet. Figurez-vous que ce petit gâteau, ce financier aux amendes, il a été créé par un certain Lannes qui tenait boutique dans le quartier de la Bourse. Et donc, la plupart de ses clients étaient des financiers, n'est-ce pas? Et c'est facile à manger, le financier. Ça ne salit pas les doigts. C'est pratique lorsqu'on va travailler. Et il a eu l'idée, mais après coup, de transformer la forme du gâteau et de lui donner la forme d'un lingot. Donc évidemment, maintenant, la forme a rejoint le fond, si je puis dire. Alors, il y a d'autres pâtisseries comme ça qui cachent une jolie histoire derrière leur appellation. L'opéra, puisqu'on vient parler de l'opéra. On a longtemps attribué ce gâteau au café nappé de chocolat à Gaston Lenôtre, mais en fait, il aurait été mis au point par le chef Gavillon de la maison d'Aloyau. Il faut rendre à César. Et même, on trouve dans le journal Le Gaulois en 1899, une publicité parlant de ce gâteau qui a l'air d'être tout à fait identique, qui s'appelle déjà l'opéra. Pourquoi ? Parce qu'on le servait en exclusivité au restaurant du Grand Hôtel, place de l'opéra. Voilà. Alors, le Paris-Brest, vous savez, a été créé en l'honneur de la course cycliste reliant Paris à Brest, hein, à la demande de son créateur, Pierre Giffard. On avait parlé de ça au moment de l'histoire du Tour de France. En ce qui concerne l'éclair, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il semblerait que c'est simplement parce que ça se mange très vite à la vitesse de l'éclair. Quant à la religieuse, il semble qu'elle tire son nom du fait que son glaçage rappelait la couleur des robes des religieuses. On est soudainement loin des tutus.